Et les matins débutent avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Son retour n'est toujours pas annoncé en Algérie. Le président Abdelaziz Bouteflika, hospitalisé en Suisse, souffre de graves problèmes neurologiques et respiratoires. C'est ce qu'affirme la Tribune de Genève, contredisant ainsi le certificat médical officiel transmis au Conseil constitutionnel à Alger. Un nouveau coup dur pour le clan Bouteflika qui se fissure, vous l'entendrez.
Et puis le géant chinois des télécoms Huawei relance la guerre diplomatico-commerciale contre les États-Unis.
Huawei qui porte plainte contre Washington pour avoir interdit l'achat de ses équipements aux administrations américaines. À la une en France, la réaction énervée d'Edouard Philippe face aux Nations Unies qui réclame une enquête approfondie sur tous les cas rapportés d'usage excessif de la force pendant la crise des Gilets jaunes. Une crise à laquelle est censé répondre le grand débat national. Dans ce journal, nous ferons un point sur l'implication de la jeunesse dans cette concertation.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, on va revenir à ce qui s'est déroulé dans la prison de Condé-sur-Sarthe. Comment prendre en charge les radicalisés en prison? On posera la question au sociologue Romain Seize.
Et voilà de quoi alimenter la contestation contre un cinquième mandat présidentiel d'Abdelaziz Bouteflika en Algérie. Celui qui est au pouvoir depuis 20 ans souffre, on le sait, de séquelles d'un AVC depuis 2013, hospitalisé en Suisse depuis une dizaine de jours. La Tribune de Genève affirme dans ses pages que le président algérien souffre de problèmes neurologiques et respiratoires sous menace vitale permanente. Abdelaziz Bouteflika risque de faire des fausses routes alimentaires, ce qui peut entraîner une grave infection pulmonaire, sans compter d'actuels troubles du langage. Est-il donc en capacité de continuer à diriger l'Algérie? L'Ordre des médecins a mis la pression hier sur le Conseil constitutionnel algérien en rappelant que les certificats médicaux délivrés aux candidats à la présidence algérienne devaient répondre aux règles de déontologie médicale. Et puis le camp Bouteflika commence à se fissurer. La puissante organisation nationale des Moudjahidines, qui regroupe les anciens combattants de la guerre d'indépendance, soutient désormais le peuple qui manifeste et dénonce l'influence de personnes au pouvoir à qui, je cite, « ont été ouvertes les portes pour faire main basse sur l'argent public ». L'analyse de l'historien Benjamin Stora, spécialiste de l'Algérie.
L'Organisation nationale des Moudjahidines regroupe les vétérans de l'armée de libération nationale. C'est une organisation extrêmement fidèle à tous les régimes, tous les gouvernements qui se sont succédés. Si cette organisation apporte son soutien aux manifestants, même si elle ne mentionne pas la question du cinquième mandat, c'est quand même important parce qu'on sait que les manifestants défilent en réclamant qu'il n'y ait pas de cinquième mandat. Et puis il y a l'Ordre national des médecins aussi qui se manifeste, qui est très importante en Algérie et qui met en garde sur le fait de ne pas attribuer de faux certificats médicaux pour ce qui concerne l'ensemble des candidats. Mais bien entendu, il s'agit là de la santé d'Abdelaziz Bouteflika. Je ne sais pas si ça va changer les choses, mais ça signifie qu'à l'intérieur du pouvoir, il y a vraisemblablement des discussions ou même des dissensions. Et donc, il est évident que plus ces manifestations continuent et plus les débats, les dissensions vont naturellement se faire jour au sein du pouvoir politique.
L'historien Benjamin Stora, spécialiste de l'Algérie, joint par Thibaut Cavaillès à Alger avant une grande manifestation prévue demain contre un cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Les artistes se mobilisent, Leïla Berato.
Après les premières manifestations, Aziz Hamdi, 28 ans, croise le chanteur Amin Chiban. Les deux jeunes hommes avaient commencé à composer chacun de leur côté, inspirés par le mouvement. Ils mettent leur travail en commun et invitent d'autres artistes à les rejoindre.
On a senti que tout le monde était prêt. Tout le monde a eu déjà cette idée de faire quelque chose, mais ne savait pas comment commencer, comment entamer. Et dès qu'il y a eu cette volonté qui a été déjà mise en place, rapidement, elle a été rejointe par tout le monde. Elle a été produite dans un temps record.
La chanson « Youm El Shab », aujourd'hui « Le Peuple », est mise en ligne le 1er mars. La semaine suivante, Adila Bendimerat, 34 ans, actrice et productrice, lance un appel à un rassemblement des artistes.
Au départ, il s'agissait de faire une réunion un peu pour discuter dans un endroit fermé avec les artistes. Et puis, ayant moi-même depuis des années travaillé au théâtre de rue, je me suis dit non, en fait, c'est dans la rue. Parce que si la constitution est bafouée et que le pouvoir est en train de semer le désordre, il faut qu'on occupe un espace démocratique, en tout cas qu'on le crée. Et cet espace démocratique, il est dans la rue.
À l'issue de la réunion, plusieurs personnes ont décidé d'organiser des performances artistiques pendant la grande manifestation de ce vendredi.
La crise algérienne qui rebondit ce matin dans la presse suisse avec des informations de médecins à Genève qui contredisent donc le certificat médical officiel d'Abdelaziz Bouteflika. On y revient dans la revue de presse internationale de Camille Magnard après le journal de 7h30. Direction la Chine à présent, où le géant des télécoms Huawei relance la guerre diplomatico-commerciale contre les États-Unis. Washington soupçonne le groupe Huawei d'espionnage, sa dirigeante financière Meng Wanzhou en liberté surveillée au Canada a comparu hier devant un tribunal de Vancouver. La procédure d'extradition vers les États-Unis débutera le 8 mai prochain. Et aujourd'hui, donc, le géant chinois des télécoms annonce porter plainte contre les États-Unis pour avoir interdit l'achat de ses équipements et services aux administrations américaines. Un nouveau front judiciaire analysé à Pékin par Dominique André.
Le géant des télécoms porte plainte devant un tribunal fédéral du Texas. Ce matin, le groupe chinois a annoncé qu'il contestait un ajout à la loi sur la défense nationale adoptée l'an dernier aux États-Unis. La nouvelle version de cette loi américaine met en place un contrôle sur les contrats du gouvernement américain avec des sociétés chinoises, dont Huawei. Les agences fédérales ont l'interdiction d'utiliser ces composants chinois pour des raisons de sécurité nationale. C'est illégal, il n'y a pas de concurrence loyale. Le Congrès américain a échoué à fournir la moindre preuve contre Huawei, affirme le groupe chinois. Le premier équipementier mondial de télécom accuse également les États-Unis d'avoir piraté ses serveurs et volé des courriels. Les États-Unis accusent Huawei d'être utilisé par le régime de Pékin à des fins d'espionnage. Ils lui ont interdit de déployer sa 5G sur le sol américain et font pression sur les alliés européens pour qu'ils fassent la même chose. Depuis plusieurs semaines, la firme chinoise a engagé une opération de communication énorme en invitant la presse étrangère à visiter ses usines de Shenzhen, Pékin et Canton. Ce matin sur Weibo, le Twitter chinois, les commentaires sont nombreux et très partagés. Certains demandent la libération de la dirigeante de Huawei retenue au Canada, mais d'autres s'interrogent aussi sur la sincérité du groupe chinois.
Et alors que Pékin poursuit son bras de fer diplomatique, commercial et judiciaire contre Washington, les États-Unis connaissent, eux, un déficit commercial inédit depuis 10 ans à plus de 620 milliards de dollars. La politique résolument protectionniste de Donald Trump n'a pu empêcher l'afflux record des importations en provenance de Chine, du Mexique et de l'Union européenne, et ce malgré les taxes douanières punitives imposées aux biens venus de l'étranger.
7h07, la suite du journal de Catherine Dutu dans les matins de France Culture. Les Nations Unies réclament une enquête approfondie sur, je cite, tous les cas rapportés d'usage excessif de la force pendant la crise des Gilets jaunes.
Et avec cette demande, Michel Bachelet, haut commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, s'est attiré les foudres du premier ministre, invité hier soir sur BFM TV. Édouard Philippe a déclaré qu'on n'avait pas attendu le haut commissaire pour faire la lumière sur l'ensemble des faits dès lors qu'il y avait des plaintes. Il lui conseille d'ailleurs d'examiner l'ensemble des cas de violence, notamment contre les forces de l'ordre ou les biens publics. Mise en garde par ailleurs d'Édouard Philippe contre les Gilets jaunes qui prévoient de nouveaux rassemblements demain et samedi. Tous ceux qui continuent de manifester quand des rassemblements basculent dans la violence, ceux-là se rendent complices de quelque chose d'inacceptable, affirme le premier ministre. Et pour répondre à la crise des Gilets jaunes, l'exécutif a lancé le grand débat national à moins de 10 jours de la fin de cette consultation. Une question ce matin, les jeunes ont-ils trouvé leur place dans ce débat et comment les inciter à participer davantage? Le sujet était au cœur d'une rencontre hier avec Gabriel Attal, le secrétaire d'État à la jeunesse. Le reportage de Rosalie Lafarge.
La réunion du dimanche matin dans une salle municipale où le principe du cahier de doléances, les jeunes, ça ne les séduit pas forcément d'emblée.
Quand on a vu justement ces maires avec leur stylo, leur cahier, on s'est dit en 2019, avec les nouvelles technos, il faut qu'on puisse leur mettre à disposition un outil technologique pour leur permettre de récolter un maximum d'avis de manière très simple.
Jérémy Lefebvre est l'un des ingénieurs à l'origine de l'application Facebook Messenger Entendre la France qui met à disposition un questionnaire accessible sur les téléphones.
Un peu plus d'un mois après le lancement, on a récolté 250 000 contributions. On a 80% de ces contributions-là qui ont été générées par des répondants qui ont moins de 35 ans. Et en fait, c'est vraiment le format simple, ergonomique et pratique qui séduit cette population qui est vraiment jeune.
Et sans grande surprise, chez les jeunes, un thème ressort plus que les autres, selon le secrétaire d'État Gabriel Attal.
C'est vraiment la question du climat et de l'environnement. On s'est beaucoup interrogé de savoir si c'était marqué territorialement, est-ce que c'était plus fort dans les zones urbaines, ce qui est parfois un peu avancé par certains, et la réponse, c'est clairement non. C'est un enjeu générationnel qui remonte très fort. exactement.
Sur ce thème, les jeunes ont des propositions, insiste Leïlou Tourbier-Dexé, vice-présidente de la Fédération des maisons des lycéennes et lycéens.
Quand on est un particulier et qu'on vit dans la campagne, par exemple, on est obligé d'utiliser sa voiture, donc ça pollue. On peut faire du covoiturage, mais ça pollue également. Donc l'envie que les transports en commun écologiques soient développés sur tout le territoire.
Cette génération, comme les autres d'ailleurs, attend maintenant la traduction politique de ses propositions, mais espère surtout que sa parole sera plus souvent prise en compte.
Nadine Morano, Brice Hortefeux, Frédéric Pechenard, les soutiens historiques de Nicolas Sarkozy figurent en bonne place parmi les 20 candidats supplémentaires investis hier sur la liste du Parti Les Républicains pour les européennes. Une liste très à droite, orientation souhaitée par Laurent Wauquiez, le patron des LR. C'est ce que note la politologue Virginie Martin, interrogée par Guillaume Fariol.
L'équilibre, finalement, est plutôt favorable, si je puis dire, à Laurent Wauquiez en très grande partie. Donc, c'est Bellamy, c'est Arnaud Danjean, c'est Morano, c'est Hortefeux, c'est Geoffroy Didier. Enfin, bon, et la liste est longue, hein, et surtout dans les premiers de liste, comme cela, on voit bien l'inflexion est très claire. Pour Laurent Wauquiez, autour de lui et de sa personne, et surtout de sa ligne politique. Donc finalement, ça doit être assez décevant pour une droite plus modérée, et peut-être rassurant pour une République en marche qui peut profiter d'une droite de centre-droit qui pourra peut-être se retrouver chez Macron plutôt que chez Laurent Wauquiez finalement. Stratégiquement, c'est peut-être risqué, cette inflexion un peu à droite toute, et puis un peu à droite toute d'une part, et puis aussi pour des européennes avec un choix très critique à l'égard de l'Europe.
Lui a officialisé sa candidature pour l'investiture de La République En Marche au municipal de 2020 à Paris. Le secrétaire d'État au numérique Mounir Bajoubi explique dans les pages du Parisien qu'il quittera le gouvernement en juin prochain en cas de désignation. Après 2 mois d'audience, le verdict est attendu ce matin au procès de Mehdi Nemmouche à Bruxelles. Il est jugé pour l'attentat qui a fait 4 morts au musée juif de la capitale belge en 2014. La culpabilité du Roubaisien de 33 ans ne fait aucun doute pour les procureurs, Mathilde Lemaire.
Mehdi Nemmouche a fait valoir son droit au silence pendant quasi tout le procès. Quand la cour avant-hier lui a donné une dernière fois la parole, il a juste prononcé cette phrase énigmatique « Si c'était à changer, je changerais tout ». Avant cela, son avocat, le plus controversé des prétoires belges, avait dénoncé le piège tendu à son client, une défense complotiste, fantaisiste, scandaleuse pour les parties civiles. Mehdi Nemmouche se serait retrouvé mêlé à une exécution ciblée de 2 agents secrets israéliens, car en effet, selon lui, les 2 premiers touristes tués de sang-froid au musée juif étaient des espions. Une exécution pensée par de supposés agents du renseignement iranien ou libanais, sans que soit apporté plus de précisions ni d'éléments matériels. Du grand n'importe quoi, selon les 2 procureurs, qui ont rappelé les traces ADN, les témoignages, les preuves par la téléphonie, la vidéosurveillance ou encore les vidéos de revendication de Mehdi Nemmouche. Dans le box, il y a un autre accusé, Nasser Bendrer, délinquant marseillais soupçonné d'avoir fourni à Nemmouche ses armes. Il est son complice, dit l'accusation. Le verdict sera sans doute rendu en 2 temps. C'est ainsi en Belgique. En cas de verdict de culpabilité ce matin, la cour devra se prononcer ensuite sur les peines demain.
Le cardinal Barbarin sera-t-il condamné ou relaxé pour ne pas avoir dénoncé les actes de pédophilie du père Prénat? Le tribunal correctionnel de Lyon rend son jugement tout à l'heure. De nouveaux appels à débrayer ont été lancés ce matin dans les prisons, notamment à la Santé à Paris, après l'agression terroriste avant-hier de 2 surveillants de l'Orne par un détenu radicalisé. Réaction politique à suivre dans le journal de 7h30. Le temps de ce jeudi 7 mars, pluvieux sur les 2 tiers nord du pays, plus sec et ensoleillé au sud, le sud où il fera au meilleur de la journée entre 14 et 21 degrés, 11 à 15 sur les 2 tiers nord de l'Hexagone. Guillaume.
Merci Catherine Dutu, 7h13 sur France Culture. Comment prendre en charge les radicalisés en prison dans quelques instants?